Frédéric, comment allez-vous, vous, Monsieur Napguy?
Ça va très bien, merci de l'invitation.
Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs, ceux qui veulent voir le prototype, on reçoit Frédéric la semaine prochaine à Ça me regarde. Donc, vous pourrez voir ça sur la table. Je la décompose et la recompose. Frédéric, aidez-nous un peu à comprendre. Est-ce que cette idée-là est venue, disons, au-dessus d'une pinte de blonde après un match de hockey?
J'aimerais bien que ça soit comme ça, mais c'est venu plutôt après une partie entre des employés de l'UQAM et les Hiboux de Montréal, qui, je pense, c'est au cours de l'hiver dernier. Puis M. Ouellet, qui est dans les Hiboux, travaillant à l'UQAM, m'a dit, ben, il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire à l'UQAM pour aller un peu plus loin technologiquement parlant au niveau d'une rondelle. Parce que vous le savez, eux jouent avec une canne en métal avec des billes là, à l'intérieur, donc c'est pas très technologique. Hein. Donc c'est comme ça que c'est venu, ça a vu le jour. Ils nous ont ensuite contactés, puis on a été très heureux d'embarquer dans le projet.
Ouais, c'est vrai que ça fait plutôt 1915 que 2015, mais en même temps, la conserve nous a rendu de fiers services et ça coûte rien une fois qu'on l'a vidé, on s'en sert, alors que là, on parle de prototypes, de laboratoires, d'heures de recherche et en plus, ben, de confection. Tout ça monte à combien?
C'est clair que ça coûte des sous. Par contre, la fameuse canette, elle dure à peu près 15 minutes dans le jeu. Puis, on me dit que ça coûte quand même des sous au total à la fin de la partie pour avoir leur échantillonnage suffisant de canettes. De notre côté, on essaie d'avoir quelque chose qui va être capable de durer pour au moins une à deux ou même trois parties de hockey complètes au lieu de juste 15 minutes. Puis, qui, on espère, on va pouvoir aller chercher un prix d'environ 50, une cinquantaine de dollars. C'est quand même dispendieux. Effectivement, mais considérant qu'on peut l'utiliser pour plusieurs parties, on pense que c'est quand même un bon rapport par rapport à la canette, là.
Ce qui est assez fabuleux là-dedans, et vive le cheap labor, c'est que vous avez mis certains de vos étudiants sur le dossier. Donc, c'est le genre, si tu veux tes crédits, il faut que tu travailles, mon pit.
Ben, écoutez, je pense que j'irai pas jusqu'à là parce que les étudiants, d'ailleurs, ils faisaient pas ça dans le cadre d'un cours. Ils faisaient vraiment ça dans le cadre d'une bonne action, si vous voulez. Là, je sais que ça a l'air un peu cliché de le dire comme ça, mais on leur a donné des bourses assez symboliques, bien sûr. Mais oui, on les a recrutés vraiment de façon volontaire, trouver des gens qui voulaient faire une bonne cause. D'ailleurs, moi, j'avais, comment on les a trouvés du côté microélectronique, les étudiants, c'est que j'avais un cours de projet de fin d'études et j'avais des étudiants qui allaient finir leur bac, là. Puis on a amené M. Ouellet à faire un petit discours pour présenter le projet, puis c'est des équipes volontaires qui ont entamé les premiers efforts là-dessus.
Est-ce que ce sont des gens qui aiment le hockey, des gens qui aiment l'électronique? C'était quoi le profil? Pas nécessairement recherché, mais qui se sont portés volontaires surtout?
Les étudiants du côté microélectronique, c'est vraiment des étudiants qui avaient une passion pour le hockey comme tel,
Ah
mais
oui.
surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui voulaient vraiment faire une différence dans la vie de ces hiboux-là, là. Parce que, comme on disait, la canne, oui, elle a très bien servi, mais bon, elle va pas en ligne droite, elle fait pas de bruit dans les
C'est
airs,
vrai.
quand elle bouge pas, elle fait pas de bruit. Donc, c'est un bon élément qui a fait son travail très bien dans les dernières plusieurs années, mais il y a toujours eu une certaine insatisfaction, puis les étudiants voulaient vraiment embarquer là-dedans puis essayer de combler ça, là.
Et la raison pourquoi elle ne va pas en ligne droite et la raison pourquoi on est obligé de la remplacer aussi fréquemment, c'est évidemment que une fois qu'elle est endommagée, et ça c'est à peu près au deuxième coup que la canne reçoit, ben sa forme varie et là ça devient difficile de la contrôler. Et à un moment donné, elle est tellement cabossée qu'elle ne fait plus de bruit, elle ne résonne plus. L'aspect électronique, est-ce que vous avez été obligé d'approcher, que ce soit des manufacturiers, des compagnies, il a fallu ajouter d'autres partenaires dans le projet?
Au niveau microélectronique, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait toutes les expertises ici pour faire ça de A à Z. On a acheté bien sûr des composants commerciaux là pour mettre sur notre fameux circuit imprimé. Pour ceux qui se demandent un peu à la maison qu'est-ce qu'un circuit imprimé, ben ça ressemble beaucoup à un genre de petite plaquette où est-ce qu'on a des petits circuits électroniques qui sont soudés dessus. Donc nous, on s'est occupé de faire la conception de ce circuit imprimé là, puis d'acheter les composantes qui étaient requis, dont par exemple, je vais vous donner un exemple, un accéléromètre qui est une un petit bidule qui détermine l'accélération de la rondelle en temps réel et qui permet à la rondelle de donner un feedback audio au joueur en temps réel de sa vitesse et donc d'essayer de faire au mieux que la canne, finalement.
Est-ce que je comprends bien, Frédéric, si je dis que plus parce que bon, la rondelle émet un son. Plus la rondelle, disons, monte, plus le son varie ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une modification du son pour aider la personne à comprendre la trajectoire?
Oui, c'est absolument ça. Je vais aller un petit peu dans le détail là-dessus. C'est qu'on a deux modes qui permettent à la rondelle d'avoir une intelligence, si vous voulez, sur sa trajectoire. Un, c'est l'accélération, comme je viens de le mentionner. Puis en plus, on a une autre petite puce électronique là-dedans qui détermine l'altitude de la rondelle. Donc, si la rondelle va très rapidement, ben elle va émettre un son légèrement différent. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment un... je suis pas très bon au mime audio, là, mais c'est un bip, 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 tel un détecteur de fumée, mais dépendamment de la vitesse de la rondelle, ce bip, bip, bip-là va augmenter de cadence ou diminuer de cadence. Puis, quand elle est en altitude, ce qu'on est en train présentement de concevoir, là, pour de finaliser, c'est que ce bip, bip-là, pour ne pas l'appeler autre chose, va être, par exemple, un double bip. Par exemple, bip, 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 bip. Okay. Là, j'ai l'air drôle à la maison,
ça va, ça va.
De mimer ça, là. C'est ce qu'on essaie d'avoir.
Le défi, maintenant, c'est la grosseur et peut-être le matériau et sa durabilité?
Oui, présentement, là, on a la partie microélectronique là est quasi terminée, est fonctionnelle, mais au niveau design de la coque de la rondelle, ce qui est son corps, si vous voulez, elle est un peu trop lourde encore. On veut avoir une masse d'à peu près 250 grammes, puis là, on est à peu près une fois et demie trop lourd. Donc ça, il faut trouver des matériaux un peu plus performants, un peu plus dispendieux. Puis on a c'est là qu'on va aller chercher des partenaires industriels incessamment là, pour essayer d'améliorer cet aspect. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, il y a des gens qui sont handicapés visuels, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de frapper fort sur une rondelle. Donc, elle doit être quand même assez robuste au niveau mécanique. Là.
De mémoire, la hauteur se veut environ le double de la hauteur d'une rondelle régulière. Pour son diamètre...
Au niveau du diamètre, présentement, on étudie différentes approches parce que, comme je vous le dis, là, on amène ça dans le jeu, puis les joueurs, c'est pas juste une question de fonctionnalité. Ils veulent vraiment avoir un bon feeling de la rondelle.
Ouais.
Présentement, on est à peu près à 6 pouces. Puis on étudie une petite variation de ça, mais ça sera pas jamais, bien sûr, la taille d'une vraie rondelle, simplement parce que ça rendra le jeu un peu trop complexe pour les joueurs. Là.
On souhaite une standardisation de la rondelle. Parce que le jour où on va avoir une rondelle qui sera utilisée dans le monde, on va pouvoir vraiment rendre ce sport-là avec des compétitions internationales, avec une participation paralympique. Est-ce que vous vous sentez pressé? Parce que je sais qu'il y en a d'autres qui regardent et qui font des recherches similaires en Ontario. Est-ce que c'est, disons, une course contre la montre pour être qui sera le premier? Ou au contraire, on s'appelle puis on essaie de travailler ensemble pour s'aider?
Vous avez absolument raison. Il y a d'autres gens là, qui travaillent sur ce genre de système-là, mais on ne se parle pas. C'est pas une question qu'on veut pas se parler. C'est simplement des efforts qui ont un peu des naissances différentes un peu partout. Par contre, nous, on croit que ce qu'on a là, parce qu'on a un beau mariage de microélectronique et de design à l'UQAM, et c'est quelque chose qui est quand même difficile à répliquer ailleurs. Puis déjà au niveau design, je pense que la rondelle est assez avancée. Puis au niveau microélectronique, comme je vous disais, moi, je connais pas de rondelles qui ont les fonctionnalités que je vous ai décrites précédemment. Donc, c'est pas nécessairement une course contre la montre, c'est plutôt une course contre arriver au but d'avoir quelque chose pour les hiboux. Et puis, on espère pour tous les autres joueurs, on vise pas rien de moins que les Paralympiques éventuellement.
L'avez-vous vu, vous, la rondelle ontarienne?
Oui, j'ai eu la chance de la regarder, mais très brièvement.
Avez-vous pu jouer avec un petit
non.
peu? Non, faire un lancer?
On ne l'avait pas sous la main.
Mais je sais qu'il y a des joueurs des hiboux qui l'ont essayé. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre prototype jusqu'à maintenant et le leur?
De mémoire, on a parlé de ça il y a un bon moment. Okay. Il me semble que le bruit n'était pas adéquat.
Okay.
Mais malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin parce que ça fait quand même un bout qu'on nous en avait parlé de cette rondelle-là.
Avez-vous un échéancier? Est-ce que vous avez des pistes de solutions? C'est juste des produire ou on est vraiment encore à l'étape de chercher pour le volume puis sa robustesse?
Donc, je dirais au niveau microélectronique, on a fini, grosso modo. Puis au niveau du matériau puis de l'aspect de la coque, il en reste un petit peu. Mais on croit qu'on en a pour quelques mois au plus à cet aspect-là. Puis dès maintenant, d'ailleurs, on va commencer à travailler avec un industriel qui va essayer d'amener ça au volume, au niveau de faire des moules pour les pièces de la rondelle, etc. Puis nous, notre but ultime pour l'instant, c'est qu'il va y avoir une partie de hockey entre les employés de l'UQAM encore une fois et les hiboux en février. Puis ce qu'on aimerait, c'est que ce soit cette rondelle-là qui soit la rondelle de choix pour la partie.
Wow. Ben, je vous retiens pas plus longtemps. Il vous reste 4 mois. Merci beaucoup, Frédéric Nabki, qui est professeur département d'informatique de l'Université du Québec à Montréal.